parles beaucoup de ton neveu, qui est vraiment important. Tu vas faire quelque chose, enfin, je vais te demander quelque chose que je ne vais pas comprendre. Mais fais-lui un petit message, là, 30 secondes. Parle à ton neveu, alors parle bien sûr en espagnol. Parle-lui, peut-être que tu lui enverras juste ce petit extrait-là en lui disant « Voilà, j'ai fait un podcast avec quelqu'un, j'ai parlé de plein de choses, et ce petit message-là, il était pour toi, c'est pour te montrer l'importance que tu as. » Donc, tu as 30 secondes en espagnol. Ok, Carlos, parle à Carlos, que pour lui.
Chinito, tu sabes que te quiero mucho y te extraño mucho. Y extraño mucho también esos momentos que no pude estar contigo, pero sabes que siempre estuve a tu lado.
Il y a quelques années, il y a 6 ans, j'ai intégré une structure qui est le château de Versailles et j'ai eu le plaisir de recruter beaucoup de gens et notamment une personne qui s'appelle Claudina. Elle est en face de moi. Elle était à l'époque billettiste et il y a des gens, et vous le sentez parfois, des gens qui sont de belles personnes. Vous ne savez pas pourquoi, mais en tout cas, elle était là. Elle est partie, elle va nous raconter son histoire. Elle est partie... Enfin, elle a fait 2 saisons, je crois. Elle est partie ensuite 2 années et elle est revenue. Et quand elle est revenue, elle m'a juste envoyé un CV en me disant « Est-ce que vous recrutez des gens ?» Et moi, je lui ai juste répondu « Ok ». Ça a été son seul entretien. Quand elle est venue après, c'était pour signer son contrat de travail. Elle a commencé la saison. Et elle a une histoire assez, assez inspirante. Et j'espère que cette histoire-là, elle vous fera du bien. Et j'espère qu'elle fera du bien à plein de gens qui seront sans doute concernés, qui retrouveront à travers cette histoire eh bien, quelques petits points communs avec eux peut-être, qui débloquera peut-être un petit peu leur vie.
Je m'appelle Claudina, je suis mexicaine. J'ai grandi au Mexique toute ma vie, jusqu'au moment où, à 27 ans, je viens en France pour... entrer dans une communauté religieuse. J'avais fini mes études et j'ai travaillé dans une entreprise familiale des assurances, un courtier assurance. Et donc j'ai fait un travail plutôt administratif pour l'assurance des grandes entreprises. J'avais plein de projets, plein d'idées professionnelles, au niveau professionnel surtout. Je suis actuaire de profession. En fait, c'est plus entre finance et calcul de risque. Donc c'est né... pour calculer les prix des assurances. Je suis née dans une famille catholique. La plupart du Mexique, en fait, est catholique, donc ce n'est pas très étonnant. Les 90%, je pense, de la population du Mexique est catholique. Donc, je suis née dans une famille catholique. Donc, depuis petite, j'ai grandi dans la foi. Après, il a fallu une rencontre personnelle parce que je découvre, à un moment donné de ma vie, c'était pas vraiment ma foi, c'était la foi de mes parents. Donc, si j'allais à l'église, c'était parce que c'était comme ça. Et donc, j'avais besoin de rencontrer moi personnellement. Et c'est comme ça, à l'âge de 15 ans, j'ai fait vraiment une rencontre personnelle avec le Christ. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à m'engager personnellement à des groupes de prières, des jeunes, et à partir en mission. J'ai parti avec mon groupe d'école, c'était le lycée à ce moment-là. Et on est parti un week-end en retraite, une retraite à la plage. Et pendant cette retraite, il faisait un temps d'adoration, c'est-à-dire on a la présence eucharistique, la présence de Christ dans l'hostie. Et il y a des relais pendant toute la nuit pour juste venir prier. Donc ils nous ont proposé qu'on pouvait se lever au milieu de la nuit pour aller à cette rencontre. Donc je me suis inscrite. Et je suis allée, je ne me rappelle pas à quelle heure, mais je me suis levée pour aller. Et là, on était dans une petite chambre, toute minuscule et sans plus. Il y avait juste vraiment cette présence. Et là, vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots, mais je sentais que c'était vraiment quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas visible, mais qui était bien présent. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de commencer cette rencontre. Je savais que c'était une personne, que c'était quelqu'un. Et donc, à partir de ce moment-là, justement, quand j'allais à l'église, ce n'était plus pour aller à l'église pour aller à l'église, mais c'était aller à l'église pour rencontrer cette personne que je voulais connaître de plus en plus. Ça a changé ma vie, dans le sens, déjà, il y avait un sens, en fait. Comme j'ai dit, prier ou aller à l'église, c'était la rencontre, en fait. Et ça change tout, ça donne du sens. Et donc, j'ai commencé à m'engager dans des groupes de jeunes. Et on partait les vacances de Pâques, notamment, à des endroits très pauvres au Mexique pour rencontrer des endroits, des villages et parler de Dieu. Donc, ou bien juste faire des travaux et manger avec eux. J'étais toujours une fille depuis petite qui ne faisait pas trop de problèmes, on va dire. Nous sommes trois, je suis la dernière. On est très différents tous. Mon frère, il est plutôt... c'est mon frère, mon grand frère, donc déjà l'aîné. Donc plus, je ne sais pas, on va dire, le rebelle, celui qui s'est disputé avec les parents. Et ma sœur, non, elle était plutôt calme, mais c'était vraiment différent. Elle avait plus besoin d'attention au niveau de sa santé fragile. Donc voilà, c'était plutôt... Et moi, j'étais plutôt l'indépendante de la famille, qui ne faisait pas de problèmes, qui faisait sa vie. Tous les deux sont mariés. Ils sont des enfants, oui. Quand j'ai quitté le Mexique, les plus grands, ils avaient un an. C'est une communauté internationale. Et je l'ai rencontré sur Internet, mais aussi j'étais en voyage dans un lieu de pèlerinage marial dans un autre pays, en Bosnie, à Medjugorje. Donc j'étais là et c'est là où j'ai fait vraiment une rencontre très forte avec Dieu, une deuxième rencontre qui m'a fait me poser la vie de la question de la vie religieuse. En fait. C'est une communauté d'église acceptée par Rome. Et je voulais être loin de mon pays, loin de ma famille. Et je voulais d'abord, tout d'abord, je ne savais pas si c'était vraiment ça. La vie familiale au Mexique, c'est très important. Et je ne voulais pas entendre des commentaires des personnes qui sont chères à moi. Et je voulais prendre une décision moi-même. Donc, j'ai décidé d'aller en France pour une année, uniquement, 6 mois d'ailleurs. Pour, alors, mon excuse, c'était apprendre le français. Parce que j'aime beaucoup les langues, j'aime beaucoup l'internationalité. Donc, je dis à mes parents, je pars 6 mois en France. J'ai besoin de faire un stop à ma vie pour réfléchir pour la suite. Et donc, je pars apprendre le français. Mon papa, à ce moment-là, c'était lui le propriétaire en fait, de l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé. Et donc, il me propose plein d'autres possibilités pour rester. Ce qui m'a déchiré le cœur, c'était avec mon petit-neveu. Il avait 1 an et demi. C'était un dimanche, moi je partais le lundi. Donc le dimanche, on a fait chez mes parents une réunion familiale. Donc il y avait mon frère, ma sœur, mes parents et mes neveux à ce moment-là. Donc il était tout petit, il commençait à peine à parler. Enfin, il ne parlait pas, il disait juste maman, papa. Et donc ces jours-là, ce dimanche, il était particulièrement proche à moi. Il voulait tout faire avec moi. Rien qu'avec moi. Et ce jour-là, il a dit pour la première fois « Tia Clau », donc c'est « Tante Clau », mon prénom. Et ce jour-là, quand il est parti avec ses parents, il savait, en fait, sans... Et là, je regrette n'avoir pas parlé avec lui, n'avoir pas expliqué que je partais. Et parfois, on sous-estime les enfants. Et donc, ce jour-là, quand il partait normalement, on faisait toujours des réunions familiales et lui, il partait, il disait au revoir avec sa petite main et il partait avec ses parents chez eux, oui. Et ce jour-là, il ne voulait pas dire au revoir. Et c'était trop, oui, il a commencé, il était dans mes bras. Et oui, il a juste commencé à pleurer. Il ne voulait pas aller avec ses parents. Et là, vraiment, ma belle-sœur l'a carrément pris. Elle, il faisait ses petits mains, il voulait juste aller avec moi. Et il est parti comme ça. Et là, je regrette n'avoir pas expliqué, en fait, que je partais. Et voilà. Oui, du coup, je regrettais, comme j'ai dit. Et donc, 6 mois après, je rentre chez moi. Et là, je l'explique. Je l'explique que je l'aime. Et que, voilà, que je partais, mais ça n'empêchait pas que je ne l'aimais pas. Ma présence était toujours avec lui, malgré le fait que je n'étais pas physiquement avec lui. Et maintenant, il a 15 ans. Alors, 6 mois au départ. Après, je rentre au Mexique. Et après, je reviens pour intégrer formellement la communauté. Ces 6 mois, alors, je rentre dans un complètement rythme différent. Donc, c'était levé le matin. Alors, moi, j'étais dans un cours des langues. Donc, je n'étais pas vraiment à la communauté. Mais comme, justement, je voulais savoir si c'était ça où je voulais vivre, vivre après, ensuite, je suivais le rythme comme les autres. Et donc, on s'est levé tôt le matin. Après, c'était les premières prières du matin, donc les laudes. Les lodes, oui, c'est on prie en chantant, en récitant les psaumes. Ensuite, moi, j'avais les cours des langues. Donc après, moi, c'était les petits déjeuners, ensuite les cours des langues. Mais avant les lodes, on ne parle pas. Parce que normalement, les lodes, c'est la première prière qu'on fait. On dit « Seigneur, ouvre mes lèvres ». Et donc, à partir de ce moment-là, vraiment, la journée commence et on peut commencer à parler. Donc, si on prend les petits déjeuners avant les lodes, techniquement, on ne peut pas parler, on ne doit pas parler. Et ensuite, après les lodes, oui, on parle. Et la communauté dans laquelle j'étais, les lieux des repas, c'est des lieux de partage fraternel. Donc, on parle. Il y a des moments, par exemple, en carême, où on ne parle pas. Techniquement, on peut parler de tout. Et dans les concrets, il y a des thèmes où on ne parle pas vraiment. On rigole, on voit des films aussi. Je ne me rappelle pas la première fois, justement, que j'ai rencontré des sœurs. Je n'étais pas encore à la communauté. J'étais une jeune et j'étais invitée à manger avec des sœurs. Donc, pour moi, les sœurs... Justement, à ce moment-là, je ne voulais pas être sœur. Parce que pour moi, les sœurs, elles étaient toutes sérieuses, tout le temps, à l'église. Ils priaient. Donc, je ne voulais pas ça, vraiment, pour moi. Et donc, pendant ce repas, je rencontre une sœur super drôle. Enfin, elle est drôle, en règle générale. Et là, je ne sais pas pourquoi, la conversation a mené... je pense que quelqu'un qui avait chanté faux. Et donc... elle a fait allusion à Shrek, tu vois le film quand Fiona chante et que le petit oiseau explose. Quand on regarde des films à la communauté, d'ailleurs c'est le dimanche soir, enfin le jour où le lendemain il n'y a rien, et ce n'est pas tous les jours où on regarde des films, mais c'est possible et facultatif les dimanches. C'est vrai que les films sont toujours choisis, donc c'est un film qui porte un message, qui est beau, enfin qui... bon, non, parfois, il y a des films d'action, ça dépend si c'est des frères, des sœurs qui choisissent. Mais s'il y a... Donc, souvent, déjà, les films sont présélectionnés. Donc, il n'y a pas de scène d'amour, il n'y a pas de scène de... Et si jamais il peut avoir... Enfin, le film est beau, en règle générale, mais qu'il y a une scène, parfois, moi, ça m'est déjà arrivé, il avance, la scène. J'étais assez rapide à mes choix. En fait, je rentre au Mexique au mois d'août. Pour revenir en France au mois d'octobre. Oui, alors en fait, il faut dire qu'avant, donc, quand je suis partie les premiers 6 mois, j'ai quand même dit à mes parents, avant de partir, juste à mes parents, mon frère et ma sœur, qu'il y avait la possibilité, et que j'allais en fait dans une communauté parce qu'il y avait la possibilité d'une vie religieuse après, ensuite. Alors à ce moment-là, c'était très dur parce que les réactions des... Bon, mon frère sort salé, enfin, ils m'ont dit, peu importe qu'est-ce que tu choisis, on est là. Après, mon papa, sa réaction était « Ok, d'accord, va, vois, et ensuite, tu prendras le choix. Mais juste prends le bon choix, n'essaye pas de te faire attirer par de l'or, en plus, par ce qui brille. » Et pour ma maman, c'était assez dur. Elle pleurait. Donc ça, c'était aussi dur pour moi, parce que je voyais souvent pleurer ma mère, et je savais que c'était parce que... J'allais parce qu'il y avait cette possibilité. Donc même si je lui disais, j'ai pas encore fait un choix. À ce moment-là, vraiment, j'ai parti pour voir. C'était difficile de gérer, surtout que tu sais que c'est à cause de toi, en fait. Que le lendemain, tu la retrouves avec les yeux bien grands, et donc elle a pleuré toute la nuit. Elle faisait quand même pas mal aussi des chantages un peu affectifs. Si tu pars, moi, je... J'essayais de gérer, juste de laisser le temps faire. Et effectivement, un temps après, je pense une semaine après ça, un soir, on rentre ensemble, c'est moi qui conduisais, on arrive à la maison. Et là, elle me dit, ma fille, enfin, peu importe ce que tu choisis, sache que je suis avec toi, avec tes choix. Donc, ne te fais pas souci de moi. Alors, mon planning, c'était réveil... Juste un peu avant les lodes, parce que je suis lève-tard. Et donc, je me levais juste pour arriver aux lodes. Donc, le premier rendez-vous de toute la communauté à l'église pour prier, donc les premières prières de l'église. Ensuite, moi, je prenais petit déjeuner. Ensuite, il y a un temps de... On l'appelle Lectio Divina. Donc, c'est un temps avec la parole de Dieu. Ça, c'est personnel. Et ensuite, à partir de 9h, c'est un temps de travail. Personnellement, la plupart du temps, ça dépendait de la maison dans laquelle j'étais. La plupart du temps, j'ai travaillé dans la comptabilité ou bien responsable de l'accueil. ou la librairie. Enfin, je faisais pas mal de travail. Jusqu'à midi, à peu près, où on se réunissait tous à l'église à nouveau pour la messe. Ensuite, on mangeait tous ensemble. Ensuite, à nouveau, à 14h, c'était le travail, jusqu'à 17h, 17h30, où il y avait chapelet. C'est des prières, le rosaire. Et chaque perle, c'est une prière. Donc, c'est une prière mariale, donc plutôt à la Vierge Marie. Et ensuite, c'était les vêpres, donc les prières de fin de journée. Ensuite, on mangeait. Et il faut dire que pendant les temps de travail, soit le matin, soit l'après-midi, il y avait une heure d'adoration personnelle. Donc, tout choisissait l'heure, tout organisé. Alors, une heure d'adoration, on va à l'église ou à la chapelle où il est exposé les saints sacrements, donc c'est la présence réelle de Dieu pour nous. Et là, on était une heure en silence devant. C'est une communauté mixte, donc il y a des femmes, des sœurs consacrées, il y a des hommes, ça peut être des frères consacrés ou des prêtres. Et il y avait aussi des laïcs, donc des personnes qui peuvent se marier ou être célibataires. C'est samedi soir, en fait, la résurrection de Christ. Et samedi soir, c'est la fête. Et on danse. Non, on mettait des CD, enfin, c'est tout. C'est des psaumes ou des textes hébraïques sur un tiré d'un psaume ou d'une prière ou de quelque chose. Et on danse dessus. Parce que nous, on danse souvent en cercle. Enfin, il y a un sens, en fait, à chaque geste. Et donc, c'est ça qui fait la différence entre une danse folklorique bretonne ou une danse où c'est vraiment. Tu danses pour quelqu'un, mais aussi avec un geste ou une intention derrière chaque pas. Moi, j'aimais c'est... beaucoup. À ce moment-là, moi, je me rappelle souvent, c'était un de mes moments préférés où vraiment j'étais juste moi, sous le regard de Dieu, pas sous le regard des autres. Vivre en communauté, c'est pas facile. On est plusieurs, on ne se choisit pas forcément. Donc déjà, la vie fraternelle, les relations ne sont pas évidente. Donc parfois on se fait mal, sans le vouloir évidemment. Donc parfois oui, on pleure parce qu'il y a eu des choses avec telle personne ou telle autre.
Est-ce que le fait qu'on te prenne dans ses bras, qu'on t'embrasse, est-ce que ça manque ça, ce contact
Au Mexique, ça fait partie aussi de notre culture. Et j'ai trouvé qu'en France c'est plus réservé. Et surtout aussi dans la communauté. Donc oui, parfois, moi, au départ, ça me manquait, et cette expression.
Tu es retournée pendant cette période au Mexique?
Alors, les premières années, c'était chaque an, et après, chaque 300. Une arrivée que je me rappelle, qui m'a marquée, c'était une de mes premières arrivées. Je pense que c'était la première, d'ailleurs. Où j'arrive, pas dans ma ville, mais une ville touristique qui n'est pas loin. Donc c'est ma mère qui m'a dit « Je vais te chercher avec ton frère » parce qu'il avait besoin de travailler là-bas. Donc selon moi, il y avait juste ma mère et mon frère qui venaient. Et puis les petits, donc mon neveu. Il n'était pas là, pardon. Donc juste ma mère et mon frère. Donc il vient me chercher à l'aéroport. Et puis mon frère m'a dit « J'ai besoin de travailler, mais en fait, on va aller à l'île, une île qui est juste en face. » Donc je dis « Ok, enfin, je ne pensais rien. » Et après, « Est-ce que tu veux manger quelque chose ? On va au restaurant. » Je dis « Ok. » Puis on va... Et qui se retrouve là-bas, toute ma famille, avec mes neveux. Génial. Et c'est une surprise, voilà. Donc on a passé là-bas la première semaine en vacances, en famille. Et c'était très beau. Chinito, tu sabes que te quiero mucho y te extraño mucho. Y extraño mucho también esos momentos que no pude estar contigo, pero sabes que siempre estuve a tu lado.
Et alors, on repartait en France. Ça a duré donc 6 ans, à peu près. Et puis, là, tu décides de quitter la communauté. Alors, ton parcours, je ne sais pas si tu arrives directement, on se rencontre directement, ou est-ce qu'il y a une étape juste avant? Et pourquoi choisir d'aller travailler donc, dans l'accueil, sur comment tu arrives jusqu'à nous?
Alors, là, c'était une période difficile de ma vie. Là, j'ai traversé un moment compliqué, où c'est justement ma santé qui me dit, il faut que tu partes. Moi, je ne voulais pas forcément partir, mais c'est mon corps qui me le demande. J'allais pas bien. pense que c'est mon corps qui m'a dit des choses avant que moi-même je me rende compte. Donc, je cherche un travail. Et à ce moment-là, je devais partir au Mexique pour expliquer à ma famille que je partais. J'ai préféré le faire en vive voix. Et donc, j'étais au Mexique quand je commence à stresser pour un travail. Je me dis, oh, maintenant je vais partir, ça fait 7 ans que je ne travaille pas. Où est-ce que je vais trouver un travail? Je sais que c'est assez compliqué. Je savais que je voulais rester en France et pas revenir au Mexique. Et donc, je me dis, OK, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais pas revenir à faire des choses de mes études, donc l'actuarie. Je voulais faire quelque chose d'autre. Alors, je me dis, j'aime les langues, j'aime l'internationalité. Alors, je vais plutôt dans le tourisme. Alors, j'ai commencé à voir des annonces sur Internet depuis le Mexique. Et là, j'ai postulé à 3 lieux, dont le château de Versailles. Et voilà. Et on m'a répondu assez vite en me disant qu'il avait un entretien. Mais malheureusement, j'étais encore au Mexique. Donc, je réponds, je dis, malheureusement, à cet entretien, je ne pourrais pas venir. Mais j'étais prête à venir avant, en fait, pour aller à cet entretien. Tellement j'étais stressée de ne pas trouver un travail. Donc, on me répond, non, pas de souci, parce que peut-être qu'il y aura déjà un autre candidat. Donc, s'il y a quelque chose qui se libère, on vous rappelle. On ne m'a pas rappelé. Donc, je croyais que, voilà, c'était plus ça. Et 3 jours avant de rentrer en France, j'ai reçu un nouveau mail en me disant, est-ce que vous êtes disponible pour un entretien? C'est lundi et moi j'ai rentré un dimanche. Donc j'arrive un dimanche, je dis je reste à Versailles, donc j'appelle la communauté pour dire je rentre pas vraiment le dimanche, mais je rentrerai mardi parce que j'ai un entretien d'embauche. Et donc je passe un entretien avec toi lundi. Oui. Et tout de suite à l'entretien, tu m'as dit tu veux commencer quand en fait? Je commence la semaine qui suivait. Donc j'ai une semaine pour rentrer la communauté, faire mes affaires et commencer une vie nouvelle. J'avais 2 saisons.
Et l'histoire n'est pas finie puisqu'elle continue maintenant. Tu fais 2 saisons avec. Et puis au bout de 2 saisons, tu nous annonces que tu ne feras pas 3e saison parce que ta vie retrouve une nouvelle fois la communauté. Mais cette fois-ci, ta décision, elle est de partir en Belgique.
Oui, alors on me propose la Belgique.
Et cette fois-ci, j'allais dire l'aventure. Cette fois-ci, cette vie va durer 3 ans. 3 ans et nous on doit partir, alors un peu incrédule parce que c'est pas notre histoire, on n'a pas la même relation avec Dieu que toi. Donc pendant ces 3 ans-là, re la même vie, re les laudes le matin, re on a le droit de parler après les laudes, après le petit déjeuner, donc la comptabilité, re ce moment d'extase le samedi soir. Sauf que cette histoire-là, ça a duré 3 ans. Et puis au cours de ces 3 ans, et puis vous allez nous raconter, parce que Claudina, on va le dire à tout le monde, tu n'es pas venue seule aujourd'hui, parce que dans cette communauté, il y a une rencontre. Et la rencontre, c'est cette rencontre avec Marion.
Alors moi, je suis arrivée dans cette communauté en étant invitée par une amie, une musicienne avec qui j'étudiais, et qui m'a invitée à venir participer à un festival de jeunes dans la communauté, et c'était, il me semble, en 2021. Presque même pas de bonjour.
On s'est presque pas parlé, en fait. On est parti, on s'est rencontrés donc, à la maison de Belgique pour partir à un festival des jeunes. Et donc on partait ensemble dans la même voiture avec d'autres jeunes, d'autres frères et sœurs. Mais on n'a presque pas parlé.
Donc toi, tu viens dans cette communauté, tu décides aussi d'intégrer la communauté, rapidement?
Non, pas à ce moment-là. Là, c'était vraiment un festival pendant l'été. Donc, comme des festivals, comme il y en a plein dans plein de communautés différentes. Parce que c'est vrai que dans un festival catho, on va dire, il y a ce rythme qui reste présent, dont parlait Claudina. Ce rythme de communauté, de prière... En fait, généralement, il y a un thème, déjà, de base. Là, c'était « Ose la confiance », je crois, le thème du festival. « Ose la confiance en toi, oui, en Dieu, aussi envers, oui, envers tous ceux qui t'entourent et qui parfois te reflètent une bonne image où sont des guides en fait. Le matin, c'est ça, ça commence souvent avec la prière. Mais la prière, quand on est en festival, c'est plus... Il y a tout un peu... Ouais, c'est beaucoup de louanges. Donc ce qu'on appelle louanges, c'est de la musique un peu pop ou rock même. Mais en effet, avec des paroles chrétiennes. Et on commence la journée comme ça, avec beaucoup de services aussi, aider à la cuisine, faire les chambres, etc. Là, on était 250, je pense. Et c'est assez petit, mais c'est vrai que pour le lieu où on est, là, on est 250, je crois. Et de partout dans le monde. Donc ça, c'est très chouette. Et l'après-midi, en effet, il y a, comme tu disais, un peu, ça ressemble à un séminaire, parce qu'il y a plein d'invités, d'intervenants, en fait. Et on choisit les conférences auxquelles on veut assister, voilà, en fonction du thème, de la question qui sera développée. Quand je rentre du festival, moi, je connaissais pas du tout cette communauté-là. J'en fréquentais une autre bien plus souvent. Et c'est en rentrant du festival que je prends mon agenda et que je note un week-end par mois de venir à la communauté. Je me réserve un week-end par mois pour venir dans cette communauté-là. Mais il faut savoir que là, moi, j'ai encore un an d'études. Donc, je suis dans mes études et je me dis, bah, je vais venir un week-end par mois pour découvrir un peu plus cette communauté, dans l'idée de ne pas m'enfermer, en fait, dans une communauté bien précise, mais d'ouvrir un peu des horizons. Moi, j'ai été baptisée, voilà, comme mon frère et ma sœur, mais j'ai un papa qui n'est pas... voilà, il ne faut pas trop en parler de foi avec lui. Et ma maman, elle est croyante, elle n'était pas très pratique. Elle n'est pas forcément pratiquante. Je me rappelle surtout du moment où je leur ai annoncé que je changeais de communauté. Parce que moi, depuis... Oh là là, ça faisait 10 ans que dans ma tête, je me disais, je fais mes études, et après je pars en communauté pour devenir sœur. Ils le pressentaient, parce que bon, je suis très expressive. Donc, et puis j'étais toujours dans mes trucs cathos, quoi. Hein. Pour eux, depuis adolescente, ouais, toujours dans mes trucs cathos. Donc... ils le sentaient bien. Donc c'était, pour moi, c'était clair. Donc ils le savaient que je partais dans une telle communauté à la fin de mes études. Mais je me rappelle très bien du jour où, par contre, je leur ai annoncé 2 mois plus tard. En fait, j'ai terminé mes études donc en juin. Et l'été, je suis partie justement à Medjugorje, dont parlait Claudina, en pèlerinage, organisé par la communauté de Claudina. Elle venait avec nous parce que c'était elle qui était la responsable du groupe des jeunes. Et c'est au moment de ce voyage-là où, pour beaucoup de raisons différentes, je pense, mais il y avait beaucoup de choses qui jouaient dans mon inconscient aussi, je crois, mais où je me suis dit, en fait, il faut que j'aille là-bas. Donc, quand je suis rentrée de ce voyage-là, je me rappelle très bien, j'ai réuni mon frère, ma sœur, mes parents. J'ai dit, bon, en fait, je vais changer de communauté, voilà. Ça, je me rappelle. Avec une grande ferveur, oui. Oui, je disais, j'étais très, très fervente. Et je disais, ah, moi, je vais devenir sœur. C'était l'évidence de toute ma vie, quoi. Mais je pense que dans mon inconscient, il y avait beaucoup de choses qui se jouaient. Mais c'est sûr que pourtant, j'ai dû défendre ce choix quand même devant des responsables à qui on fait la demande de rentrer dans une communauté. Et voilà, j'avais tous les arguments spirituels bien écrits et tout ça. Et c'est vrai qu'elle étant dans la maison en Belgique, moi, quand j'ai demandé à la responsable d'intégrer la communauté, j'ai dit « mais je veux faire ma première étape en France ». Justement pour pas être dans la même maison que Claudina, mais rien que dire ça, finalement, ça prouve qu'il y a quelque chose.
Ce n'était pas évident. Justement, je me rappelle très bien, et je pense que Marion aussi se rappelle, d'une discussion qu'on a eue un 10 juin, où justement là, elle me pose carrément la question, est-ce que tu es amoureuse de moi ?
Surprise?
Non, parce qu'on parlait vraiment très franchement. On a toujours parlé très franchement, en fait, entre nous. J'étais surprise, oui et non, en fait, de sa question. Mais je ne savais pas quoi répondre. Et du coup, le silence, justement, a fait un peu peur. Et après, je dis, je ne sais pas, je juste sais que j'ai une très forte amitié. Envers toi, je pense pas être amoureuse, mais il y a une amitié particulière. À ce moment-là, c'était pas évident. Justement, c'est à partir de ce moment-là que les choses commençaient un peu à cheminer, on va dire. Les chemins commençaient à faire plus un cours. Et jusqu'avant, non, je me posais plus ou moins la question. Justement, je me disais, mais quels sont tous ces sentiments? Je ne peux pas être amoureuse. Non, je ne suis pas amoureuse. C'est une femme. Enfin, non, c'était quelque chose de nouveau envers moi. Donc, une amie, oui. Une très bonne amie, oui. Avec qui il y a une complicité, oui. Mais plus que ça, pour l'instant, non.
Dans la nuit du 10 au 11 juin, est-ce que tu as bien dormi?
Alors non, je pense qu'aucune des deux a très bien dormi. Ah, je pleurais. J'avais très peur de perdre l'amitié de Marion. C'était assez dur. Je pense que chacune avait un chemin déjà personnel à faire.
Nous sommes le 10 juin. Nous sommes le 10 juin. Vous vous revoyez quand?
Les 11.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est pas très difficile parce que moi, à ce moment-là, je suis en train d'étudier ma... Comment, je prépare ma dernière session d'examen,
ouais,
pour mon master et je suis à la communauté pour faire ça. Donc,
vous revoyez le 11, mais le 11, on se regarde, on se parle. À quel moment vous avez reparlé de cette discussion?
En réalité, non, parce que c'était une journée justement, on parlait des danses tout à l'heure, c'était un week-end danse. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à la communauté et il y a un peu des... Pas des professeurs, mais enfin des personnes de la communauté qui connaissent très bien les danses, qui les apprennent, enfin voilà. Et pareil, il y a des enseignements, enfin. Et, moi j'étudiais, mais j'aime énormément danser. Donc j'étais censée un peu participer quand même à cette journée, le samedi, parce que le 10 juin était un vendredi, le 11 était un samedi. Et on s'est parlé quand même par SMS seulement, hein, toute la journée. Moi, j'ai dit, va danser, moi, je vais étudier, je veux pas... Je me voyais pas croiser Claudina cette journée avec plein de gens autour. Je me dis, mais tout le monde va savoir.
Tout le monde va voir. Tout le monde va se rendre compte. Alors que finalement, personne ne s'est posé de questions.
Pas du tout.
Et à quel moment on re-rentre dans la conversation, vraiment?
Bah, le soir. Soir.
Le 11?
Le 11, mais tard. Très tard.
Vous après êtes... la danse.
Ouais.
Et là?
Mais je me rappelle qu'on a quand même... en tout cas, ce que je me rappelle, c'est que je peux exprimer ma peur de perdre son amitié. Et je lui disais à ce moment-là que pour moi, le plus important, c'était qu'on puisse continuer à être amis.
Mais il n'y avait que cette peur-là?
Cette peur que j'exprimais, oui.
Il n'y avait pas la peur de rompre ce qu'on a, l'engagement qu'on a vis-à-vis de la communauté. Il n'y avait pas la peur de décevoir ses proches, ses parents.
Non, parce que ce moment-là, pour moi-même, déjà, je n'étais pas amoureuse de Marion. Donc, il n'y a pas encore ces peurs-là. Ces peurs-là, ils vont arriver après.
Tu m'as dit le 10 juin, Marion m'a parlé. Tu te souviens avec la même précision où tu t'es dit... Non, il faut que je me rende à l'évidence. J'aime Marion. Et une date aussi?
Non.
Petit à petit?
Petit à petit.
Ça a été une évidence petit à petit?
Oui.
Et à quel moment vous vous êtes dit, on est liés? On est liés...
Justement, je ne me rappelle même pas un moment précis. Parce que ça s'est passé, comme tu dis, petit à petit... Et je ne me rappelle pas, même si c'était elle qui m'a dit, c'est moi qui l'ai dit, c'était mon évidence. Et je pense qu'on ne s'est pas... Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas, je ne sais pas si tu te rappelles.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte de... Tiens, il se passe quelque chose?
Non.
Pas à ce moment-là, parce que comme moi, j'étais vraiment externe à la communauté, j'étais une jeune, en fait, qui venait juste étudier. Il faut savoir que les communautés religieuses, il y a plein de jeunes qui viennent faire leur blocus, même qui ne sont pas du tout catholiques. Voilà, c'est juste pour avoir le silence, les repas, enfin un rythme, trouver un rythme. Donc, moi, je suis externe. Voilà, à la fin de ma session, je m'en vais vivre mon été, animer mes colos. Voilà, il n'y a que nous deux, à ce moment-là, qui nous rendons compte vraiment du déchirement. Ça commence à faire.
Oui, parce que tu ne dors pas à la communauté. Il y a un moment donné où tu vas intégrer la communauté vraiment.
Oui, voilà. En octobre.
Ok. C'est 4 mois après quand même. C'est très rapide.
Ouais.
Et vous avez toutes les deux fait vos vœux.
Juste moi.
Juste toi. Et vous avez fait vos vœux. Tu as fait tes vœux combien de temps après ou combien de temps avant?
Il faut dire qu'il y a des vœux temporaires et des vœux définitifs. Et moi, je venais juste de faire mes vœux définitifs.
En juin?
Non, en janvier. Le 15 janvier.
Avant?
Mm-hmm.
Et toi, tu arrives là-dedans et tu mets le bazar.
Oui.
Alors toi, tu arrives en octobre et tu intègres la communauté en octobre.
Oui, c'est ça.
Et tu intègres quand même la communauté avec une petite idée en tête.
C'est dingue. Je dirais pas une petite idée en tête, parce que mon idée, c'est justement que rien n'arrive. Alors qu'en réalité, tout est déjà arrivé, puisqu'on est parti en vacances en septembre ensemble, juste avant mon intégration de la communauté. Et que c'est justement vraiment ce moment-là où... Enfin, c'était des vacances amoureuses, en fait, avec le recul. Et
sans s'embrasser.
Et c'est là qu'on s'est embrassé, oui.
Donc, vous avez passé une semaine de vacances d'amoureuses. C'était où?
Même 2 semaines. Et on a été à plein d'endroits. Mais on a fait surtout... la Haute-Savoie, Lyon et puis Versailles.
Est-ce que vous l'avez vécu sans gêne?
Oui.
Donc, à ce moment-là, ça ne posait aucun problème puisqu'il n'y avait personne pour vous regarder.
Oui, c'est ça.
Et vous retournez à la communauté.
Oui. Alors, Claudina rentre à la communauté fin septembre, du coup. Et moi, je rentre le 1er octobre.
Donc, vous revenez à la communauté et là, ça doit être... une cocotte minute dans ta tête, Claudina.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe, ce retour?
Pour moi, c'était dur, les retours. Parce que je me rappelle, on avait pris la décision, en fait, juste avant que je retourne, que c'était la fin, en fait. Que ce qu'on a vécu en vacances, voilà, c'était les vacances.
C'était la fin pour vous deux?
Oui.
C'est-à-dire que vous aviez décidé de vous séparer?
Oui. Et on savait que ça ne pouvait pas être...
Et pourquoi?
Parce que c'est difficile à concevoir déjà dans chacune de nos esprits, je pense. C'était difficile. En fait, c'est vraiment tout un processus. Au départ, on les nie. Déjà, on ne sent pas ça. Tandis que oui, on les sent. Après, on l'approuve, mais en fait, pas tout à fait. Donc, vraiment, il y a... Ce n'est pas si facile, ce n'est pas je tombe amoureuse. C'est évident.
Qu'est-ce qui bloque en premier? Est-ce que c'est le fait qu'une relation entre deux femmes, ce n'est pas, entre guillemets, pour beaucoup de gens correct? Est-ce que c'est,
Moi, je pense qu'il y a vraiment plein de choses en même temps, en fait. Tout se passe en même temps. Il y a tout ce que déjà les autres vont penser, déjà ce n'est pas bien. Moi, je suis grandie, déjà, j'ai dit dans une foi catholique, et dans la foi catholique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas permis. En tout cas, moi, j'avais cette conception-là.
Il y a un texte qui dit que ce n'est pas permis?
Non, mais plus ou moins.
Plus ou moins?
Il n'y a pas quelque chose qui l'est dit comme ça, mais dans la réalité, c'est ça.
Mais il n'y a aucun texte religieux qui dit que ce n'est pas permis?
Il y a des textes, en fait, l'Église catholique, déjà, c'est l'amour qui prime. Et donc, pour l'Église catholique, je peux dire, des personnes homosexuelles, bien sûr, elles sont accueillies dans l'amour, comme toute autre personne, comme enfant de Dieu. Mais en même temps, l'acte, c'est l'acte, en fait. Ils font la différence entre la personne et l'acte. L'acte, ce n'est pas possible, ce n'est pas permis. Et voilà. Donc déjà, il y a toute la question église, toute la question foi qui rentre en jeu, la question personnelle, la question famille, la question plus loin, la communauté. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui viennent jouer en même temps.
Là,
beaucoup
on est en peur. On est en septembre, donc tu vas revenir vers nous 1 an et demi après. Donc il reste quand même... Non.
Quelques mois après.
Quelques mois après. Donc en fait, ça a été très vite.
Oui.
Donc là, vous revenez toutes les deux à la communauté. Toi, tu as fait tes vœux en janvier. Et vous vous êtes décidé de vous séparer. Et à quel moment et laquelle des deux se dit non, c'est pas possible.
En fait, Marion arrive en octobre à la communauté. Et presque 3 mois après, c'était invivable. Vraiment, il y a une tension qui n'est pas possible à vivre. Et moi, j'étais épuisée. Je pense que Marion aussi. Et donc moi, je demande indépendamment, en fait, chacun vraiment son chemin.
C'est quoi une tension, c'est-à-dire ?
En fait, on résiste. On sent qu'on doit aller dans une direction, c'est-à-dire, là, dans l'occurrence, juste s'aimer, en fait, et accepter qu'on a le droit de s'aimer. Mais la tension vient du fait que on se dit, ça ne peut pas. Ça ne peut pas, c'est pas dans nos conceptions. Moi, dans ma tête, c'est Claudina, elle a fait des vœux, elle est religieuse, elle s'est engagée maintenant à vie. C'est ça. Du coup, c'est sa vie et point barre, en fait. Tout est fermé. Tout est fermé. Et pour moi, dans ma vie personnelle, comme déjà avant, dans mon chemin, bien avant la rencontre de Claudina, c'est une femme, c'est non, en fait. Point barre.
Donc, 3 mois. 3 mois de tension importante, donc octobre, novembre, décembre.
Et les corps les ressentent.
Pardon ?
Les corps les ressentent. Et donc, au mois de janvier, je parle avec ma responsable générale directement. Et je dis, alerte, j'ai besoin de partir.
Mais tu lui dis, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de faire une pause, ou tu lui dis, j'ai besoin de partir ?
Alors, au départ, vraiment, je lui dis partir, je lui explique tout. Là, c'est la première personne...
Tu lui expliques aussi la relation avec Marion ?
Tout, oui. J'ai dit pourquoi, pourquoi. Déjà, en fait, indépendamment de Marion, il y a une histoire parallèle à Marion qui me font me mettre beaucoup de doutes par rapport à ma place à la communauté. Beaucoup de choses dont je ne suis plus d'accord, dont je sens que, disons que je découvre des choses en moi. Il y a tout un chemin, en fait, de découverte
en soi. Un exemple de choses
Par exemple, l'affectivité. Je me rends compte que pour moi, c'est important d'avoir des amitiés. Bon, là, dans l'occurrence, c'était plus qu'une amitié, mais quand tout était vraiment dans les règles, c'était vraiment une amitié saine, une amitié qui nous menait vers Dieu même. Qu'il y a des restrictions, qu'il y a dans les concrets des choses, parce que dans la théorie, c'est possible, ce n'est pas interdit. Mais dans les concrets des choses, tout sent beaucoup de jalousie, des restrictions, que tu es dans le mal, en fait. Que tu es en train de faire quelque chose de mal. Et je suis une personnalité où je me mets beaucoup en question, où je vais culpabiliser. Et donc là, pour moi, ce n'est pas possible, déjà.
Donc, une fois que tu lui as parlé, il se passe quoi ?
Elle se rend compte que je ne vais pas bien, et donc elle me propose, ok, ne prends pas une décision maintenant, de partir. Et je te propose un temps vraiment où tout te repose d'abord. Tu prends, je pense, un mois ?
C'était un mois, oui.
Et tu vas au Mexique ?
Un mois ? Non, je ne rentre pas au Mexique. Là, je suis en Belgique. Dans une maison qu'on me prête, enfin, je trouve un endroit où je pourrais me reposer. Elle m'a dit un mois qui peut être extensible à 2-3.
La peur, elle était la peur que ta responsable avait. Est-ce que c'était une peur bienveillante ou c'était la peur du scandale, la peur d'un départ qui allait être difficile à gérer ? Est-ce que tu sentais quelqu'un qui faisait attention à toi ou est-ce que tu sentais quelqu'un qui faisait attention aux conséquences que ça allait pouvoir avoir pour eux ?
Non, dans cette responsable où je parle, responsable général, où il y a eu les dialogues, où j'ai tout raconté, il n'y avait pas eu vraiment de peur, c'était vraiment une bienveillance. Je me sentais là, à ce moment-là, vraiment à l'écoute. Et voilà, elle me laisse tellement qu'elle me dit, tu pars tout de suite. En fait, c'est elle qui m'a dit, tu pars cette semaine.
Combien de temps tu es partie là ?
3 mois.
3 mois.
Et je ne suis pas revenue en fait.
Janvier, février, mars, oui, 3 mois.
Enfin, je pars un mois. Pour après l'extendre à 3 mois, pour après l'extendre à une année.
Je crois que le premier mail que je reçois de ta part, c'est en janvier, je crois. C'est ça, hein ?
Oui.
Et en janvier, je te dis, c'est pas possible, puisque la place avait été prise. Et oui, c'est le premier mail. Donc toi, en fait, tu reviendras plus jamais dans la communauté. Et à quel moment tu recontactes Marion?
Quand je suis à l'extérieur, 7 mois de repos, à ce moment-là, vraiment en parallèle, Marion prend une autre décision pour sa vie. Donc je la laisse raconter.
Alors, une autre décision.
Oui, donc bon, comme Claudine le disait, nos corps étaient vraiment en mauvais état. Moi, j'étais épuisée. Épuisée. Et en tant que chanteuse, je suis très, très attentive à mon corps et à ma santé physique. Et c'est vrai que, voilà, on est toutes les deux des personnes très vraies, très sincères. Moi, j'ai toujours bien aimé partager. Et en fait, c'est ça qui était le plus dur et le plus lourd, je pense, à porter, c'est qu'on était pendant 3 mois dans une situation où on ne pouvait pas partager ce qu'on vivait. Et du coup, on avait ce sentiment d'avoir l'impression de mentir à tous ceux qui nous entouraient, alors qu'en soi, on mentait pas vraiment, mais il y avait un truc qui ne pouvait pas être dit. Et donc ça, vraiment, ça m'a épuisée. Et moi, surtout, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que cette fixation de la vie religieuse depuis mes 14 ans, c'était une fuite à beaucoup de choses, en fait. À commencer par cette homosexualité et également au monde du travail. J'avais très, 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 très peur de me lancer dans le monde du travail. Parce que je suis une personnalité voilà, qui veut toujours être parfaite, qui veut que tout soit bien. Alors, et toujours avoir la peur de personnes qui vont me dire « c'est pas comme ça ». Donc voilà. Et donc du coup, j'ai, comme dit Claude, un peu en parallèle, moi j'ai parlé à mes responsables propres qui étaient là dans la maison. Et j'ai dit, ça mène à rien en fait. Ça va mener nulle part de rester un an ici parce que là j'ai compris que j'ai rien à faire ici en fait. Donc voilà, donc j'ai parlé avec une responsable qui m'a dit réfléchis encore, puis 2 responsables. Et ce qui était très dur pour moi, c'était que je pouvais pas vraiment dire une des raisons principales parce que je pouvais évidemment pas parler que en fait j'étais folle amoureuse d'une des sœurs de la communauté. Donc voilà, je mettais un peu plein de raisons en avant, mais c'est vrai que pour moi, ça a été dur aussi de devoir m'expliquer devant des gens sans pouvoir vraiment dire le fond du fond. Voilà. Mais donc, Claudina a quitté la communauté le 15 janvier. Non, pardon, le 13 janvier. Et moi, le 15 janvier, 2 jours plus tard. Et le 15 janvier était le jour de ces 1 an de vœux définitifs dans la communauté. Donc, ça a été assez lourd et très symbolique comme date. Et c'est vrai que tout le monde s'en rendait compte. Pour toutes les personnes qui nous entouraient, c'est vrai que beaucoup me l'ont dit d'ailleurs, déjà à l'intérieur de la communauté ou même après. Pour eux, notre amitié, elle était malsaine. On se tirait vers le bas parce que forcément, ils mettaient pas du tout le terme de couple, amoureuse derrière. Donc ils voyaient 2 amis qui en fait allaient de plus en plus mal, qui restaient de moins en moins avec les autres. Voilà. Et c'est vrai que... Donc évidemment, ils ont fait le lien que nos départs étaient quand même liés, parce que pour eux, bah, on se tirait vers le bas et on prenait des mauvaises décisions. Mais après...
Vous avez raison, puisque la bonne décision aurait peut-être été de partir toutes les deux tout de suite.
Oui, moi je pense qu'ils avaient tort.
Mais ils ne voyaient peut-être pas cette mauvaise décision, c'était pas la même.
Oui, ouais, ouais. Surtout que pour eux, la seule personne il y a une personne dans la maison qui était au courant, qu'on était tombée amoureuse. C'était une des sœurs de la communauté qui m'accompagnait vraiment plus personnellement et à qui j'ai tout raconté au début, en fait, des 3 mois. Et qui m'a dit « c'est le diable ».
Est-ce que dans cette communauté, parmi tous ces gens, est-ce qu'il y a eu au moins une personne qui vous a écouté avec bienveillance et à qui presque vous pourriez dire aujourd'hui « merci, on t'aime fort ».
Ah oui, oui. Alors, il s'appelle Père Willy. On l'aime très, très fort. Et en fait, il ne fait pas partie de la communauté, mais il est prêtre. Il est prêtre et c'est assez incroyable comme histoire, sa rencontre avec lui. Parce que c'est un prêtre qui a accompagné un groupe de jeunes et qui est venu un jour à la communauté. Et nous, quand des prêtres extérieurs venaient, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais c'est vrai qu'on leur saute très vite dessus parce que en fait, en communauté, on est dans un vase clos quand même. Et donc les prêtres qui nous entourent font partie de la communauté, ils pensent d'une certaine manière. Donc un prêtre extérieur qui vient, c'est un peu une chance pour dire est-ce que je peux parler avec vous, échanger. Et sans le savoir, Claudina, ce jour-là, quand ce prêtre est venu, Claudina lui a demandé de parler avec lui. Et une heure ou deux heures plus tard, moi, j'ai demandé à ce même prêtre de parler avec lui. Et sans le savoir, on lui a raconté la même histoire.
Et il a fait le lien.
Il a fait le lien, évidemment. Moi, je suis passée en deuxième, mais ce qui était magnifique chez cet homme, c'est qu'il n'a pas du tout sous-entendu qu'il était déjà au courant. Il m'a vraiment écouté comme s'il découvrait l'histoire. J'imagine que je ne l'ai pas raconté de la même façon en plus que Claudina. Et c'était très beau parce qu'à toutes les deux, il a terminé en disant « C'est très important que vous trouviez quelqu'un à l'extérieur. Il ne faut pas que vous restiez enfermé et à ne pouvoir parler à personne. » Et donc à toutes les deux, je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas à moi, il m'avait donné son numéro de téléphone et il a dit vraiment « N'hésitez pas. »
Donc, tu nous parlais d'un événement, toi, après le 15 alors ? Qu'est-ce qui se passe ? À qui tu parles ? À qui tu expliques ?
Quand je sors de la communauté ?
Ouais.
À mes parents.
Leur réaction ?
Mais ils étaient déjà au courant. Et pour eux, ça a été très très difficile.
Ils étaient au courant comment ?
Ma maman, quand je suis rentrée des vacances en septembre avec Claudina, elle est retournée en communauté. Et moi, j'avais une petite semaine pour préparer mes affaires, acheter mes tenues. Le même cheminement, en fait, que Claudina a expliqué tout à l'heure. Et
elles sont où, ces tenues ?
Elles sont... je les ai laissées là-bas.
D'accord.
Ouais. Et là, un jour, vraiment, je crois la veille vraiment de ma rentrée en communauté, je recevais, en fait, on s'écrivait beaucoup avec Claudina et ça n'allait pas, quoi. Je sentais dans quelle détresse elle était, de peur de plus savoir où on est après ces vacances, où en fait, on n'avait qu'une histoire d'amour incroyable.
Parce que vous étiez séparés, là, on est d'accord.
Oui, voilà, c'est ça, mais on a décidé que, c'est fini. Et la veille, en fait, j'ai explosé en pleurs. Ma maman, elle était occupée de m'éplucher des pommes, comme on aime bien, on était à la cuisine. Et j'explose vraiment en pleurs. Et elle me dit, mais je vois que ça va pas, hein. Et je lui dis, mais c'est Claudine, c'est... Alors, je ne disais pas Claudina, je disais, c'est Sœur Elisabeth. Et je lui dis, je suis inquiète parce qu'en fait, on est amoureuse, quoi. Et là, une maman, c'est quand même fort, quoi. Hein, parce que quelle force il faut avoir pour déjà n'avoir aucune envie de voir sa fille entrer en communauté. Et en plus, la laisser partir en sachant qu'en fait, elle est folle amoureuse d'une religieuse et qu'elles vont s'interdire toute histoire. Donc ma maman était au courant, mais c'est la première fois de sa vie où elle a décidé de ne pas en parler à mon papa pour épargner un peu mon papa, pour qui c'était déjà assez difficile de me voir partir. Mais finalement, après moi, pendant mes 3 mois à la communauté, j'ai eu l'occasion de rentrer une fois. Et là, je l'ai expliqué à mon papa, on en a bien parlé posément, et ils nous ont beaucoup aidés. C'était un secours énorme pour nous deux, en fait. À distance même, déjà.
Ton papa, il a compris tout ça ?
Oui. Mais
il a accepté ?
Tout de suite.
Tout de suite ?
Alors mon papa...
Toi qui croyais qu'il allait avoir du mal à accepter, il a accepté tout de suite ?
Oui, tout de suite. Mon papa, c'est un homme généreux. Mais généreux, j'ai envie de l'écrire en gigantesque, quoi, vraiment. Avec un cœur énorme. Et qui tout de suite m'a dit... Alors très synthétique aussi, il aime bien, bien séparer les choses. Alors d'abord il m'a dit, écoute, il y a une chose, c'est que t'es amoureuse d'une femme, il est archéologue mon papa, alors il m'a dit ça a toujours existé en fait, des hommes qui aiment des hommes, ça a toujours existé, des femmes qui aiment des femmes, et pour moi il n'y a aucun problème. Il m'a dit, je ne comprends même pas comment ça peut être un débat, l'homosexualité aujourd'hui, il n'y a pas de débat pour moi, c'est... L'amour, c'est ce qui compte, en fait. Donc ça, ça fait un bien fou, évidemment. Quand moi, j'étais à un stade où je résistais encore moi-même à me dire « Je suis un monstre, en fait, d'aimer une femme. Je suis pas normale. » Je me répète ça tout le temps. Et voilà, donc il m'a dit ça. Et après, il m'a dit « Voilà, après, la seconde chose, c'est qu'il y a ta vie, il y a la vie de Claudina. Et il faut pas que vous preniez des décisions comme ça, hâtives, parce que vous êtes dans une situation complètement hallucinante. Et en plus, avec, voilà, avec toutes les hormones de l'amour qui vont avec. Enfin, voilà. Donc, il m'a beaucoup aidée à essayer d'y voir clair et à pas prendre de... Aussi à penser à moi, en fait. À pas penser que, voilà, à voir Claudina qui va pas bien. Mais il y a aussi ma vie qui est en jeu, en fait.
Vous auriez pas, toutes les deux, au moins un point commun, c'est d'avoir des parents assez incroyables, quoi. Et quelle bienveillance. Quelle bienveillance de pour des parents de faire peut-être... de se retirer les idées qu'ils avaient sur le déroulement de votre vie, que ce soit religieusement, que ce soit amoureusement et tout ça, et de vous accueillir comme ça et de réagir avec tant de bienveillance. Et je crois que la plupart des parents sont comme ça. C'est pas, il y a pas une majorité de parents qui sont. Je crois que la plupart des parents, ils sont prêts à tout accepter. Donc il faut juste dialoguer et leur dire ça. Et voilà une belle preuve. Et je sais pas ceux qui nous écoutent si vous ressentez cette émotion, mais ça, voilà. Alors Marion se lâche un peu. Claudine, elle est encore un peu en résistance. Je la vois avec ses petites lèvres pincées. On sent parfois que quand il y a des choses à dire, elle a un peu de mal, mais voilà. Donc, vous n'êtes plus ensemble. Mais là, vous allez être de nouveau ensemble. À quel moment ? À quel moment le top départ ?
Alors, je suis partie en repos pendant un mois. Et,
non, tu m'as dit 3 mois. 3 mois dans la maison ?
Oui, mais au départ, c'était un mois. Après, c'était renouvelé pour... Enfin, c'était...
Rallongé,
oui, pour 2 mois de plus. Mais au départ, c'était pour un mois. Même si je savais que c'était plus parce que vraiment là, mon corps lâchait. Et j'étais super, super fatiguée. Et à ce moment-là, une semaine après, en fait, on parlait de toute façon, nous, oui, toujours par SMS. Et une semaine après ou 2 semaines après, parce que la première semaine, je pense que j'ai rien fait. Après, Marion est sortie, elle a aussi eu un temps en famille. Mais ensuite, on s'est retrouvés. Pour un week-end. Et c'était aussi l'anniversaire de Marion où j'ai rentré chez elle.
Là, on est en janvier. On était au 15 janvier.
15 janvier, on se retrouve fin janvier. Passons une semaine ensemble. Donc, j'étais plus à la communauté, mais j'étais en repos. J'étais toujours à la communauté, mais pas physiquement à la communauté.
Ton isolement, il durait plus combien de temps fin janvier ?
Un mois.
Depuis un mois. Alors, j'essaie de me repérer aussi, puisque tu arrives chez nous en mars quand même. Hein ?
Oui.
1er mars.
Oui.
Donc, les 3 mois, ils ne tiennent pas, hein ? Que s'il y a un mois fin janvier et que tu me dis que tu as été isolée 3 mois.
Non, c'était, oui, mon 3e mois, c'était, j'étais à Versailles. Bon, mais ça faisait partie du 3e mois de repos, en fait. J'étais toujours au...
Ok. Donc fin janvier, vous vous retrouvez pour une semaine. Et là, vous prenez des décisions. Je te rappelle que fin janvier, tu m'écris.
Oui, mais il n'y avait pas de décision...
Moi, ce que je me rappelle, c'est quand je suis arrivée sur le quai de la gare. Et quand même, il y avait une libération, quoi. C'était...
Quand vous vous êtes revus fin janvier.
Oui, oui. Et c'était... On est au plus bas au niveau de notre santé physique, mentale quand même un peu. Mais on a pris la bonne décision.
Oui. Oui, oui, là,
quelle
là quand on était en liberté, il y avait cette poids... quand même de la communauté de l'interdit.
Je m'excuse, j'essaie de comprendre aussi, et ceux qui nous écoutent, ouais. Vous aviez pris quelle décision ? De ne plus vous parler ? De ne plus être lié ? Quelle décision ?
Non, justement, on a pris la bonne décision d'être sorti, et maintenant de voir comment on va construire, en fait.
Ça suffit.
C'est ça.
On ne se cache plus. On ne résiste plus. Je veux dire, on ne va pas résister
voilà.
À la direction que tout notre
tout
être nous dit d'aller dans cette direction-là. Donc, on se laisse faire.
Oui.
Et on vit.
Oui.
Ça, on
alors,
vit.
Alors, où, comment, tout ça, on ne sait rien.
La première discussion, on se dit alors, où, comment, ok. On sait qu'on vit, mais maintenant, il faut qu'on prenne des décisions.
Surtout qu'on voulait des choses différentes. Moi, ma sécurité, c'était Versailles. C'était le seul lieu que je connaissais.
Mais pourquoi c'était ça ?
Déjà parce que quand j'étais, il y a 3 ans, j'étais bien là-bas. Et c'est une entreprise où je me sens bien. J'aime beaucoup. et où je me sens accueillie. Et c'est... oui. Et donc, c'était une sécurité pour moi de revenir dans un lieu où c'était un peu familial, en fait. Un peu...
Elle te disait quoi de Versailles ?
Que des éloges. Et surtout de toi. Non, mais c'est vrai. Et déjà, même, je t'ai vu souvent en parler quand même à beaucoup de personnes. Parce qu'en communauté, on témoigne beaucoup. On parle beaucoup de témoignages. Et donc, parfois, on lui demandait de témoigner de sa vie, tout ça. Et donc, elle expliquait quand elle était sortie de la communauté qu'elle avait passé tout ce temps à Versailles. Et c'est vrai que t'en parlais toujours. Enfin, voilà, que c'était une équipe. Enfin, une très, très bonne ambiance dans les équipes de travail. Que tous les liens, en fait, qui étaient restés. Donc moi, j'avais ça en tête. Alors, c'est vrai que. Oui, je me rendais compte que c'était un endroit où elle était vraiment heureuse.
Où elle serait bien.
Bien, ouais.
Donc, on se réécrit, enfin tu me réécris. Je t'envoie un long mail, ok. Et maintenant, donc tu pars. On organise le départ, mais quand elle a le ok de Versailles, toi, vous vous posez des questions. Toi, ça a été évident, tu dis ok, Versailles c'est parti.
Ah non, pas du tout.
Non.
Pas du tout. Moi, je me rappelle de on était en FaceTime, parce que tu étais partie chez Julie, justement. Et
Julie, la Julie que je connais.
Ouais, voilà, oui. Ouais.
Tu as des gens.
Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a eu l'ouverture. Enfin, voilà, qu'il y avait une possibilité de poste. Enfin, et que tu m'as dit, je me rappelle, tu m'as dit non, mais pour Claudina, la priorité, c'était nous deux. Donc, s'il fallait qu'il n'y ait pas Versailles. Pour qu'il y ait nous deux, voilà, elle choisirait de ne pas aller à Versailles. Et pour moi, c'était tout l'inverse. La priorité, c'était qu'on trouve notre épanouissement personnel au niveau professionnel, en fait, qu'on soit bien quand même, et qu'après, on verrait bien. On verrait bien comment on va faire pour nous deux, quoi. Et donc, moi, je lui ai dit, fonce. Je lui ai dit, surtout, tu envoies ton CV ce soir, tu écris et tout. Et elle me dit, et elle, finalement, elle l'a fait.
Je ne sais même pas si je l'ai ouvert, pour te dire. Je n'ai aucun souvenir. Si je le vois ton CV, je te dirais oui, ok, je l'ai ouvert. Mais je n'ai même pas souvenir. Alors d'abord pour deux choses. D'abord pour le souvenir que j'avais tout ça. Et puis d'abord parce que Julie, je savais que c'était un élément pour elle, voilà, que Claudina était importante, et autant que pour moi, et ou plus, peu importe. Et voilà, que c'était validé. Je n'avais même pas besoin de lui poser la question, c'était validé. Donc vous partez, donc tu décides toi de suivre tout de suite ?
Non. Donc moi, je commence à postuler partout, à des postes en Belgique, je cherche pour être professeur de musique, enfin de chant, et je regarde un peu les auditions qu'il y a aussi, enfin voilà. Et donc oui, à ce moment-là, c'est vraiment Claudina part sur Versailles, et moi je vais faire ma vie en Belgique, quoi. Hein. Mais alors, en fait, de nouveau, un peu inconsciemment, on s'inflige à nouveau cette tension, en fait, qu'on a vécue pendant 3 mois en communauté, c'est-à-dire, ok, là, les portes sont ouvertes, on peut être ensemble, mais bon, il y a un truc un peu...
Encore.
Ouais, il y a un peu de l'ordre, là, de la flagellation chez moi, où je me dis, oui, mais bon, quand même...
Et alors, un week-end, Marion vient à Versailles... pour me rendre visite, plus tôt que prévu, parce qu'au départ, elle devait venir plutôt un mois après que je sois à Versailles. Et elle arrive une semaine après, je pense. Une ou deux semaines après que j'étais déjà à CVS. Et là, on prend la décision.
Voilà, enfin.
Enfin.
Là, on prend une décision.
Quelle décision ?
Qu'elle vient à Versailles. Aussi, et qu'on commence à construire quelque chose ensemble. Et donc, quand on a pris la décision, tout de suite, on était au château d'ailleurs, on mangeait, et puis j'ai dit, ok, alors on y va. Elle me dit, ok, on y va. Et je commence à chercher des appartements. Et du coup, j'ai vu un qui m'a plu, et j'ai dit, alors j'appelle, tu es sûre, enfin, c'est bon, on est parti sur cette base-là. Oui, j'appelle. Enfin, pour te faire court de l'histoire, c'est notre appartement aujourd'hui.
Né sous une bonne étoile.
Ouais.
Après, donc pas de travail.
pas de travail et surtout, je ne connais personne. Et pour ça, moi, c'est, pour moi, ça, ça a été très difficile. Moi, je suis une personnalité très, très, très sociable et surtout très engagée. J'ai besoin d'être engagée dans 50 000 trucs, mais voilà, de trouver un endroit où je peux me donner, en fait. Donc, j'arrive, bah, Claudina, elle travaille déjà. Alors, j'ai fait d'abord un premier aller-retour avec toutes les affaires en voiture, où l'appartement, il n'y avait rien, il n'y avait pas de meubles, rien. J'ai juste déposé tous les cartons, puis je suis rentrée chez mes parents. Et puis, je suis arrivée un peu après, en train, voilà, avec mon sac à dos. Et là, ça commençait. Et c'est vrai que ça a été difficile, parce que je découvrais tout, en fait. C'est aussi avec le recul qu'on peut mieux lire, mais c'est vrai que je découvrais un peu la vie de travail, en fait. Parce que Claudina, forcément, elle a des horaires. Elle rentre tard, parfois super tard. Et moi,
parfois, elle part tôt et elle rentre tôt.
Parfois. Mais c'est vrai que là, le début de la saison, ça a été difficile. Parce que quand même, tu devais apprendre beaucoup de choses. Donc, il y a eu plusieurs jours où c'est vrai que... Où en fait, je l'attendais et moi, je savais pas quoi faire, quoi. Je savais même pas... on n'avait rien pour cuisiner, on n'avait pas de casserole. Donc moi, j'adore cuisiner, mais même ça, je pouvais pas le faire. Donc je savais même pas où il fallait que j'achète à manger. Enfin, c'est des bêtes trucs, hein. Quand on y pense, c'est trop bête. Maintenant que je connais Versailles, je me dis, mais enfin j'étais tout prêt, quoi, des magasins et tout. Mais c'est vrai que, je sais pas, je me sentais vraiment livrée à moi-même. Et pourtant, j'avais pas de doute. En fait, ça, c'est quand même très beau. J'avais aucun doute. Je me disais, c'est là qu'on doit être et tout. Mais ouais. Bon, après, voilà, on a installé, voilà, comme tout couple ou toute personne qui s'installe, en fait. C'est vrai que ça devient plus facile quand on commence à avoir des meubles, on peut ranger, enfin, voilà. Moi, comme j'avais pas encore de travail, je commençais à chercher. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que tout de suite, j'étais encore en Belgique. J'ai tout de suite un monsieur, j'avais mis une annonce sur un groupe un peu de partage en disant voilà, j'arrive à Versailles et je suis professeure de chant et chanteuse professionnelle, donc j'aimerais bien trouver des choses si vous avez des... Et il y a un monsieur qui m'a tout de suite répondu, qui m'a dit, j'ai pas de travail à vous proposer, mais je gère une association qui aide les gens à trouver du travail. Donc ça m'a fait du bien, par exemple. Déjà, ça a créé un petit lien avec des personnes, j'ai eu des petits rendez-vous, voilà. Et puis, on habite à côté d'une belle maison qui fait beaucoup d'activités aussi, d'accueil. Donc, j'ai fait un peu des choses comme ça tant que je ne travaillais pas. Donc, j'ai commencé un peu à me créer quand même mon petit cercle.
À ce moment-là, Claudina vient me voir et elle me demande si éventuellement tu pourrais travailler.
Oui, c'est ça.
Et alors, tu passes un entretien avec moi aussi ?
Non. Avec Alexandrine, de nouveau, ouais. Et oui, et ça s'est fait en une heure, c'était bouclé. Je suis venue le midi, à midi, pendant la pause déjeuner de Clo. Je suis venue manger avec elle. Et elle m'a dit, bon, tu veux travailler? Je dis, oui, je veux travailler, j'en ai marre. Et vraiment, parce que quand même, ça faisait un mois que j'étais là. Et que voilà, je faisais pas rien, parce que moi, je peux pas ne rien faire. Mais bon, c'est vrai que c'est dur après de tourner en rond. Et donc j'ai dit oui, franchement, moi je veux bien travailler. Donc elle m'a dit, bon, si tu veux, alors tu peux faire tel poste. Et j'ai dit, bon, c'est quoi? Elle m'a un peu expliqué. J'ai dit, bon, allez, de toute façon, qu'est-ce qu'on perd finalement? Et donc voilà, l'après-midi...
Est-ce que tu as retrouvé la bienveillance dont Claudina te parlait dans notre équipe? Alors, ça va être difficile pour toi de dire non devant moi.
Mais est-ce oui, enfin, elle, vraiment, ce qu'elle me disait, c'est, mais c'est chouette parce que tu vas rencontrer des gens, justement, ce dont j'avais besoin, en fait. Des gens, voilà, la diversité, en fait, des équipes et de tout âge, parce que c'est vrai qu'elle sait que moi, j'aime beaucoup être avec des personnes plus âgées, enfin, depuis toute petite, échanger, voilà, avec un autre niveau aussi d'expérience de vie, en fait.
Ça, on n'a pas parlé de ça, parce que là aussi, il y a encore un autre barrage, il y a encore un autre préjugé que beaucoup de gens ont, c'est que vous n'avez pas le même âge. Tu as quel âge, Marion ?
24 ans.
24 ans, et Claudina ?
Je viens d'avoir 40 ans.
Tu viens d'avoir 40 ans, 16 ans d'écart, et... ça vous y avez réfléchi à ça? Ça vous a
bien
posé
sûr.
Un problème?
Est-ce bien qu'il y a... sûr, on a réfléchi.
On en a beaucoup parlé.
On a beaucoup parlé, oui. Non, mais c'est toi à dire.
Oui, bah, c'est vrai que il y a surtout la peur. Alors, on est toutes les deux à se, forcément, en étant très fidèles et quand même dans cette envie de fidélité, de construire une vie ensemble, même si, voilà, on verra. On sait jamais ce qui peut se passer dans une vie, mais c'est vrai que on a très vite parlé de, ah, mais en fait, quand Claudina, tu commenceras à être plus âgée, un peu dépendante et tout ça, bah, moi, je serai quand même à un âge où peut-être j'aurais envie de faire encore plus de choses. Est-ce que, pour moi, c'était une évidence que il n'y avait pas de problème. Pour Claudina,
Claudina, elle n'ose pas parler.
Oui, non, merci. Mais c'est vrai que c'est la question que contre. Je me pose, que je me dis. Enfin, je vais l'empêcher justement à un moment donné. Peut-être que on aime beaucoup aller se balader ou faire des tours en vélo ou bien marcher. On marche beaucoup. À un moment donné, je pense que ça marche. On va naître dans un rythme différent.
Ça a été un problème, toi, pour tes parents, quand tu leur as dit que Claudina avait 16 ans de plus que toi ?
Non. À vrai dire, non. C'est vrai qu'ils y ont réfléchi aussi, comme nous, en fait. Très posément, plutôt. Voilà, ils ont quand même... C'est peut-être le seul point sur lequel ils ont mis un peu des... Pas des réserves, c'est trop grand comme mot, mais enfin, voilà, ils l'ont souligné.
Et ta famille, Claudina, elle le sait aujourd'hui ?
Elle le sait aujourd'hui, oui.
Tu leur as dit rapidement ? Quand ?
Alors,
tu as donné une date précise ?
Pas assez rapidement pour moi, mais trop rapidement pour eux.
C'est dur ?
C'était dur parce que pour eux, déjà, le fait que je quitte la communauté, c'était un deuil à faire. Et je n'ai pas trop longtemps attendu. Pour moi, comme Marion a dit au départ, on est des personnes où on aime être beaucoup dans la vérité. Et pour moi, ne pas dire quelque chose de si important de ma vie à des personnes qui sont aussi si importantes dans ma vie, c'était difficile. C'était comme garder un secret que je ne voulais plus garder, qui commençait à être lourd pour moi. Et donc, à un moment donné, oui, je leur dis. Et c'est un double deuil pour eux.
Et ils sont
certains d'eux.
Vous avez eu l'occasion d'en parler plusieurs fois depuis ?
Oui.
Et ça va de mieux en mieux ?
Oui, alors pour mon père, il faut dire que j'ai pleuré quand je lui dis. Parce que pareil, pleurer des joies en fait, d'émotion. Parce que j'avais trop peur de ces moments. J'avais vraiment peur de comment ma famille allait accueillir.
Et t'as dit quoi ton papa ?
Et mon papa, c'était un peu comme les pères de Marion en fait.
Je t'aime.
Je t'aime et effectivement c'est des choses qui existent et ça ne change en rien mon amour pour toi.
Et ta maman ?
Pour ma maman, c'était plus dur. La seule manière pour que j'ai pu en fait, utiliser pour leur dire, c'était par écrit. Parce que c'était aussi une manière de me protéger. J'avais trop peur de leur réaction. Et donc, je voulais ne pas être là et voir quelle était la réaction. Et donc, pour me protéger, j'ai écrit. Et j'ai demandé à mon père de leur lire dans une réunion familiale. Et donc, je savais quel jour mon père allait lire cette lettre à ma famille. Et après
il y avait ton neveu ?
Non. Il y avait juste les adultes de ma famille. Et donc, je savais quel jour était. Et après, silence. Et alors, ce silence était dur. Dur pour moi. Et c'est après 2 jours que ma maman m'écrit. Donc, par message, par WhatsApp. Pour me dire que c'était difficile pour elle, mais qu'elle était là et que son amour ne changeait pas.
Elle te dit la même chose que ton papa, je t'aime, mais un peu différemment.
Oui, c'est ça.
Mais c'est bien d'exprimer aussi que c'est dur.
Oui, tout à fait. Donc c'est ça que j'aime, en fait, qu'elle ne me cache pas les choses, qu'elle me dit, il faut que tu me comprennes, de où je viens, de la mentalité, de la culture de laquelle je viens, de mes croyances, et que c'est difficile pour moi. Mais elle me dit, en gros, ne t'inquiète pas, il faut juste donner-moi de temps.
Et vous allez aller les voir bientôt ?
Oui, on aimerait beaucoup les revoir bientôt. On voulait aller après la saison, mais maintenant les choses vont changer un peu.
On donc trouvera des solutions.
Peut-être que l'été prochain, on verra.
Vous avez envie d'enfant ?
Ah. Oui.
C'est notre question qu'on s'est aussi posée. On se pose des questions, n'est-ce pas ?
Mais c'est vrai que moi, naturellement, je réponds oui, quand même.
Aussi.
Et toi, naturellement, tu réponds oui ?
Naturellement, oui.
Eh ben,
après, on se pose plein de questions.
Parce que c'est vrai que dans ce cas-là, je pense que par rapport à la religion, elle reprend encore une grosse place, la religion, à ce moment-là.
Oui, tout à fait.
C'est des décisions... Mais aussi,
je me pose des questions pour l'enfant, en fait. J'ai besoin juste de m'instruire, j'ai besoin juste de lire, me documenter, mais est-ce que pour l'enfant, enfin, est-ce qu'il y a des répercussions ou pas? Il va être aimé, ça c'est sûr. Quand on est enfant, on taquine, ça c'est sûr, et il existe ça toujours, mais est-ce que le fait que l'enfant elle a deux mamans et pas un papa, est-ce que ça ne va pas être un motif pour être un peu une raison d'être moqué dans l'école? Enfin, tout ça, c'est des questions que je me pose.
Donc c'est une envie. Ok. Est-ce qu'il y a des gens comme ça que vous avez envie de remercier? Est-ce qu'il y a des gens à qui vous pensez quand, quand le soir vous vous racontez l'histoire ou vous racontez des moments? Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué une importance et qui ont été apaisants et qui vous ont fait dire finalement c'est pas si grave que ça, tout va bien quoi, il y a rien de, on est chouette.
Oui, il y a beaucoup de personnes. Beaucoup, c'est trop dire peut-être, mais déjà Père Willy. C'était la première personne qui nous a aidés. Hein.
Vous lui enverrez le lien du podcast?
Oui.
Ouais, il sera heureux, je pense.
Oui.
Parce que la dernière fois qu'on a skypé avec lui, il nous a dit « Maintenant, ma seule demande, c'est que vous sortiez et que vous ne vous cachiez plus. »
Quel âge il a?
La quarantaine, je pense.
Oui, je pense.
La quarantaine. Et il est père où?
En Belgique. À Fosse-la-Ville,
Vous l'avez invité à Versailles?
Oui, on l'a invité. Et il a dit que...
Quand il passera à Paris, il passera nous voir.
Bon, en tout cas, Père Willy, si vous entendez le podcast, eh bien, sachez que moi, je serais heureux de vous rencontrer aussi. Parce que, c'est en tout cas ce qu'elles ont dit. Ça me donne vraiment envie de vous rencontrer. Et moi, je vais l'avouer, moi, je ne suis pas catholique. Je ne suis pas baptisé, je n'ai pas de communion, rien du tout. Et malgré tout, je serais très content de rencontrer le Père Willy. Parce qu'une seule fois, j'ai parlé avec un prêtre dans une préparation de mariage. Et j'ai sorti toutes les choses que je voulais dire contre le catholicisme, machin, etc. Et je me suis aperçu que le monsieur qui était en face, le père qui était en face, je ne me souviens plus de son nom. Mais en m'écoutant avec bienveillance, il m'a montré que le plus obtus des deux, c'était pas lui. Et donc, si j'en rencontre un deuxième avec Père Willy, je serais très content de le rencontrer. Alors, d'autres gens, vos parents?
Nos parents, bien sûr, et nos frères et sœurs aussi. Particulièrement mes grands-parents aussi, qui sont... Ah là là. Qui sont tellement derrière nous. Et très heureux pour nous.
Ouais. Julie?
Julie, bien sûr.
Julie, ouais.
Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est chouette de faire ça, d'ailleurs, parce que... Il y en a beaucoup et pas beaucoup. Mais moi, je pense énormément à Lune et Charles, qui sont vraiment mes amis...
De Belgique?
Ouais, de Belgique, avec qui j'ai étudié ou habité pendant mes études. Et il y en a beaucoup qui me parlent plus à l'heure actuelle. Et donc, eux, c'est un peu les deux survivants. Ouais.
C'est pas grave. C'est pas grave. Y a un joli texte sur quelqu'un qui est très en colère et puis quand on ne reçoit pas la colère. Ce joli texte finit par le fait de... Mais quand on vous offre un cadeau, vous ne voulez pas le cadeau. À qui appartient le cadeau? Donc leur colère, elle leur appartient, et c'est pas grave.
Ouais.
Peut-être qu'un jour ils reviendront, peut-être qu'un jour ils se rendront compte et ils diront, ils vous retrouveront. Vous avez quelque chose à dire? Alors, vous avez une vie très engagée à Versailles, difficile de vous intégrer dans cette communauté de Versailles, cette communauté catholique de Versailles. Les gens évoluent. Est-ce que vous voulez... en parler ou est-ce qu'on en parlera une autre fois?
Ah, moi, je suis heureuse d'en parler, mais c'est difficile. Hein.
Comme on disait justement avant de venir, on n'a pas assez de recul déjà. Parce que ça commence à peine à se mettre en place. Mais en tout cas, sur Versailles, c'est difficile. On n'arrive pas à trouver un lieu qui nous accueille. Pour le moment, en tout cas, c'est vrai que nous, on n'a pas non plus frappé la porte pour se présenter déjà.
C'est sûr, moi, c'est une envie que j'ai d'aller un peu voir. Et j'ai fait des demandes d'ailleurs à quelques personnes que j'ai rencontrées de dire mais dans quelle paroisse est-ce que tu vas ailleurs qu'à Versailles, mais pas trop loin. Parce que je pense qu'au-delà de notre situation, notre histoire, c'est de toute façon en effet une église dans laquelle c'est très difficile de s'intégrer. Et même en Belgique, on en parle de l'église de Versailles. C'est vraiment connu pour être fermée. Donc, on verra. Mais c'est vrai que, comme dit Claudina, on est en train de construire un peu tout ça et de voir où est-ce qu'on pourrait s'investir. Mais c'est quand même une tristesse, je dois dire, parce que pour moi, on ne devrait pas avoir peur, en fait. Parce que l'Église, c'est, quand on est croyant, c'est le corps du Christ, en fait. Enfin, on est tous un même corps. Donc, si on est tous frères et sœurs, on devrait tellement pas avoir peur de frapper à la porte, comme tu disais.
Et si vous n'aviez pas peur, il faut le faire ?
Il faudrait le faire, il faudrait oser.
À qui appartient le cadeau ? Est-ce que vous voulez dire, on arrive à la fin, mine de rien, ça fait presque 2 heures qu'on parle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, que vous auriez, dont vous auriez voulu parler ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire, évoquer, dont on n'a pas parlé ? Est-ce que vous êtes contente d'avoir parlé ?
Oui.
Est-ce que ça vous avait fait du bien ?
Oui.
Oui.
Est-ce que vous avez moins peur ?
Oui.
Qu'au départ ? Parce que vous aviez peur au départ ?
Oui, oui, oui. Oui.
Ouais.
Moi, c'est simplement ce à quoi je pense, si je peux rajouter, c'est le mot torture qui me vient en tête. Alors, c'est pas très réjouissant, mais c'est simplement de toute cette histoire, de la raconter un peu aujourd'hui. Ce qui me vient en tête, c'est de dire qu'il y a, jamais aucune raison de se torturer pour ce qu'on est, en fait, et ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que moi, je me suis torturée pendant de nombreuses années avec mon homosexualité. Et en fait, il n'y a aucune raison valable de faire ça. Et peu importe, hein, ça, là c'est l'homosexualité, mais ça peut être plein de choses qu'on est et qu'on rejette. Et je pense, c'est vraiment ce à quoi je pense, c'est simplement dire, voilà, essayer le plus tôt possible de trouver des personnes qui vont nous aider en fait à faire ce chemin de devenir qui on est vraiment, totalement, et voilà.
Tu vois, tout à l'heure, tu m'as repris en me disant, mais nous on ne s'est pas posé la question de savoir si on était ensemble. Ou pas ensemble, voilà, c'était comme ça. Et j'ai trouvé ça joli, et je trouve ça bien, je trouve ça juste, et je m'en veux presque de vous avoir posé la question, est-ce que vous êtes ensemble ? Et de l'autre côté, t'as pas cette même réflexion et pas cette cette même façon de dire les choses et de faire les choses en parlant d'homosexualité. Quel est le besoin de dire homosexualité, vous êtes ? Et c'est de l'amour, c'est tout ? C'est un peu pareil.
Ouais.
Non ?
C'est vrai, mais c'est parce que c'est un mot que j'ai longtemps à ne pas oser dire pour moi. Et je pense que ça a été important dans mon cheminement simplement de pouvoir le poser, en fait. Parce qu'avant, quand je le disais, c'était plus... ou quand j'y pensais même, c'était collé avec le mot... ben voilà, c'est ce que tu seras toute ta vie, et t'es un monstre, et du coup tu vivras jamais, tu pourras jamais avoir le bonheur d'aimer... Et maintenant, pouvoir simplement dire ce mot, très simplement, sans aucune revendication, quoi que ce soit, mais simplement dire, bah, en fait, c'est quelque chose qui existe, mais en effet, je suis d'accord avec le fait que, du coup, ça devrait être comme les autres, parce que c'est simplement, on s'aime, on est deux personnes, on s'aime, et voilà, en fait, basta.
Claudina, oui. Il faut que tu parles dans le micro. Mais en parlant dans le micro, uniquement dans le micro, et sans te tourner sur la gauche, est-ce que tu as quelque chose à dire à Marion ?
Bah, elle sait déjà, mais c'est la personne que j'aime et que j'aimerais partager toute ma vie, en fait, avec. Elle a changé ma vie. Tout est devenu différent, en fait, depuis le moment que je l'ai rencontrée. Et je suis heureuse, en fait, qu'elle m'a permis, enfin, d'une certaine manière, qu'elle a ouvert la possibilité de pouvoir vivre cette aventure à deux, ensemble. Malgré tous les obstacles. Et voilà. Et je suis heureuse, en fait, avec elle. Et je pense que je peux dire la même chose pour elle, en fait, qu'on est heureuse ensemble.
Allez, même exercice, Marion.
Moi, Claudina, je t'aime très, très fort. Et je te remercie pour ce cadeau de vivre ensemble maintenant et déjà pour tout ce qu'on a traversé. Et ce que je veux te dire particulièrement aujourd'hui, c'est que tu es une femme courageuse. Et bravo d'avoir parlé, de t'être ouverte. Parce que je sais à quel point c'est un exercice difficile pour toi. Et merci vraiment pour ce cadeau de temps de partage.
Et moi, j'avais juste un truc pour finir. Qu'est-ce que je suis content de vous connaître. Merci à vous deux.
Merci à toi.
Merci.
Ce podcast a été réalisé par Histoire de Dire. Les dires de ce podcast ont été récoltés par Axel Bourdin. L'habillage, la direction artistique et la composition des musiques ont été assurés par Anaïs Colbeau.